Go, go, la review d'Ipress JB.
Toute l'actu du jeu vidéo chaque matin dans tes oreilles. C'est pas sexy choucroute ça?
Y'a pas mieux pour frétiller comme des petites truites.
Comme des petites truites. La revue de presse JV.
Maison de qualité depuis 2017. Et ouais.
Plus stimulant que ton café et meilleur pour la santé.
Bonjour à toutes et tous, nous sommes le 3 avril 2019, bienvenue dans votre revue de presse JV, votre podcast quotidien qui vous parle de JV chaque matin. Vous le savez, hein, on est toujours dans la semaine de rediff, la semaine des replays, avant lundi prochain de rattaquer vraiment avec les dernières news fraîches chaque matin dans vos oreilles. Le mercredi habituellement c'est 100% Japon dans la revue de presse JV, donc pour le replay de ce matin, si vous aimez Yoko Taro, le papa de Nier, si vous aimez les histoires nous causant des vieilles consoles de jeux vidéo, je crois savoir que les thématiques de ce matin, que le replay de ce matin va vous plaire, je pense. Donc je vous laisse avec ces deux beaux petits sujets datant de l'année dernière, mais qui peuvent se déguster avec autant de plaisir, je pense, en 2019. Et je vous donne donc rendez-vous demain pour un autre replay. Allez, bye bye et portez-vous bien. Ancien président de Sega, Hideki Sato se souvient des déboires de la Saturn face à la PlayStation. Voilà un article vraiment passionnant que nous sert Gamekult, qui revient donc sur des propos d'Hideki Sato, concepteur de nombreuses consoles chez Sega, et dont il fut le président aussi quelques années. Alors on nous dit que c'est dans le cadre d'un grand projet de recherche sur l'histoire du jeu vidéo japonais que cet ancien cadre a fait l'objet d'une interview dont les forums de Sega16.com ont retranscrit quelques extraits, et ces extraits ont été traduits par Gamekult. Pour une fois, c'est pas moi qui ai fait la traduction. Voyez-vous, il fait très chaud, tout ça. Pas évident à nos âges, vous savez. Donc, c'est Jarod, hein, toujours le très prolifique Jarod sur Gamekult, qui nous dit qu'âgé aujourd'hui de 67 ans, Hideki Sato a dirigé Sega entre 2001 et 2003, mais a surtout incarné l'équipe de recherche de développement ayant conçu l'essentiel des consoles du groupe, à savoir la Master System, la Mega Drive, la Saturn ainsi que la Dreamcast. Et donc dans ces extraits, il raconte comment l'entrée en scène de Sony a rapidement influencé la conception de la Saturn, console dont l'architecture est bien connue pour avoir posé de gros soucis aux développeurs. Pourtant, l'idée derrière la 32 bits était simple au départ. Hideki Sato était en effet focalisé sur une architecture traditionnelle pensée pour réaliser des jeux en sprite 2D. L'intéressé nous dit, je cite, « Sony est apparu avec sa PlayStation à base de polygones, alors j'ai décidé qu'il fallait faire de même. Mais il n'y avait pas grand monde chez Sega qui savait comment développer cette technologie. Bien sûr, il y avait Yu Suzuki qui développait des titres comme Virtua Fighter et Virtua Racing dans le département arcade, mais je ne pouvais pas simplement le traîner dans le département console. » Alors, ironie du sort, nous dit Jarod, un précieux témoignage de Ryuji Akagawa, ancien producteur de chez Sony Computer, nous apprenait en quoi le succès de Virtua Fighter avait convaincu les pontes de Sony de se lancer dans la fabrication d'une console capable de réaliser des jeux en 3D. Chose que seul Ken Kutaragi, le papa de la PlayStation, croyait judicieux à l'époque au lieu de miser sur la continuité. Monsieur Akagawa révélait « Et si la PlayStation utilisait du matériel 2D ?» Cette idée a été sérieusement considérée. C'est seulement lorsque Virtua Fighter est arrivé que la direction à prendre pour la PlayStation est devenue claire. Ce qui est hallucinant, c'est que le visionnaire Yu Suzuki a eu une influence plus qu'énorme sur Sony et sur la conception de la PlayStation. C'est assez incroyable. Donc Gamekult nous dit que c'est en constatant le retard de sa machine sur les capacités annoncées de la PlayStation qu'Hideki Sato continue de transformer l'architecture de la Saturn au point de lui greffer un second processeur Hitachi SH2, procédé alors complètement hors du commun à l'époque. Ces modifications forcées ne seront pas étrangères aux difficultés de développement dont la Sega Saturn a été infligée. Hideki Sato ne mâche pas ses mots sur la façon dont Sega a manqué le coche envers les développeurs pendant cette époque cruciale. Il nous dit, je cite, « Nous avons demandé au studio tiers de faire des jeux sans leur donner de librairie de développement. Ils mettaient une semaine juste pour comprendre comment afficher quelque chose à l'écran. Notre soutien envers les studios externes était affreux et le matériel terriblement difficile à utiliser, concède-t-il. Je fais une parenthèse, mais vous savez que les gardes-clochers m'ont toujours énervé. À l'époque, je sais que ceux qui étaient fans de la Saturn vraiment regardaient les possesseurs de Sony PlayStation d'un air vraiment dédaigneux. Si Sega avait des difficultés comme cela, il y avait vraiment des raisons. Et déjà à l'époque, ça commençait à fuiter dans la presse de l'époque que la Saturn était une console incroyablement dure à programmer, que la 3D est arrivée très tard dans la conception de la machine. Donc finalement, il n'y avait pas de secret non plus, donc on ne peut pas dire non plus que les gens avaient mauvais goût, et c'est vrai, ou que tout le monde avait trahi Sega pour Sony. Il y avait quand même des raisons à cela. Dernier extrait que j'aimerais vous rapporter. Donc c'est Monsieur Sato qui nous dit « Sony a concentré ses efforts sur le soutien des studios externes. Le PDG Norio Oga en personne allait leur parler. De leur point de vue, voir Oga se déplacer pour leur demander leur aide était quelque chose de fort. Il était évident que la PlayStation avait les meilleurs jeux. Peu importe les efforts que Sega pouvait réaliser de son côté, ça n'allait pas suffire. Sony est allé voir Namco, Taito, Konami et d'autres en leur montrant les capacités de la PlayStation et en leur disant qu'il était facile de développer dessus. Sony avait un kit de développement très facile à utiliser. » Je n'ai pas tout retranscrit, allez lire la suite sur GameCult, hein, je vous mets le lien dans la description de l'émission sur cet article passionnant qui nous ressort quelques infos qui n'avaient pas encore été vraiment diffusées. En tout cas, à mon niveau, je ne les avais pas vues et Dieu sait que les ouvrages sur la question sont nombreux, y compris en France, hein, notamment chez Pix & Love et ailleurs, il y a des ouvrages très intéressants là-dessus. Donc je vous invite à foncer directement sur GameCult pour lire la suite de ce papier ô combien passionnant. Yoko Taro, ou Taro Yoko, comme on devrait dire plus souvent, le créateur de la saga Nier, hein, qui a récemment explosé en popularité grâce à Nier Automata, nous parle de la façon dont Ikaruga, le shmup mythique du studio Treasure, a influencé ses propres jeux. Alors, j'ai trouvé ça grâce à Siliconera, qui a lui-même traduit en anglais un papier paru dans le Famitsu, et moi, en bout de chaîne, hein, j'ai envie de vous dire, je vous ai fait une traduction française des propos de Taro Yoko. J'aurais pu garder ça pour la rubrique 100% Japon du mercredi, mais j'avais trop hâte de vous livrer l'info ce matin. Et donc, le Famitsu, donc, hein, le célèbre magazine japonais de jeux vidéo de cette semaine, était consacré au shmup, hein, au shoot'em up, et à Ikaruga en particulier, pour célébrer sa réédition sur PlayStation 4 et Nintendo Switch. D'ailleurs, je vous conseille fortement, c'est vraiment un des jeux à faire absolument pour que sa culture de gamer soit complète. Bref, et donc il y avait également un papier sur celui qui s'autoproclame le plus grand fan d'Ikaruga du monde, à savoir Yoko Taro, donc connu pour Drakengard, Nier et plus récemment, et surtout pour Nier Automata, l'un des plus grands chefs-d'œuvre de tous les temps. Je sais, si vous me suivez tous les jours, vous me dites « Mais qu'est-ce qui me saoule avec son Nier Automata ?» Mais c'est pas grave, j'en mets une couche, car ce jeu le mérite. Donc, le papa de Nier nous dit comment Ikaruga, et nous le dit avec grande humilité d'ailleurs, ce qui est toujours l'une des marques de fabrique de Yoko Taro, c'est sa folie et sa grande humilité, et donc il nous dit comment Ikaruga a influencé ses jeux, son œuvre. Et il nous dit, je cite, « Tout d'abord, j'aimerais parler de la façon dont la musique se synchronise avec ce qu'il se passe à l'écran. » Luchi-san, le planificateur et directeur d'Ikaruga, était également responsable de la musique. Grâce à cela, la progression scénique correspond également à la musique. C'est l'une des choses qui rend Ikaruga étonnant. La musique que l'on peut entendre dans le deuxième stage commence pour accompagner parfaitement la scène d'ouverture. Mais à mesure que l'écran se met à défiler plus lentement, la musique ralentit également et se calque complètement à l'action. La façon dont l'équipe a mélangé la musique et les séquences entre elles était vraiment révolutionnaire. Et cela m'a laissé un tel impact que j'ai carrément piqué la technique pour la série Nier. Mais cela ne s'arrête pas à cette simple influence. Dans Drakengard, par exemple, vous avez des missiles magiques et non magiques qui ne pouvaient pas s'abattre les uns les autres. C'est essentiellement ce qu'on peut trouver dans Ikaruga. En outre, les boulettes ennemies dans la série Nier ont également été très influencées par Ikaruga. Et là, Taro Yoko dit aux journalistes « S'il te plaît, je le cite, « s'il te plaît, écris en gros que j'ai volé ça à Ikaruga, écris-le en gras. » Et plus loin, il dit « Plus sérieusement, Ikaruga a influencé la façon dont je synchronise les séquences de jeu avec la musique. » Et je fais une parenthèse, mais c'est l'une des grandes forces de Nier Automata, qui a déjà une bande-son totalement enchantresse, mais qui se marie vraiment parfaitement, tellement bien avec ce qui se passe à l'écran. Ça vient à nouveau d'Ikaruga. Monsieur Taro poursuit « Combiner les deux d'une manière qui plaît au cœur des joueurs est une tâche assez difficile. Ce genre de technique a été un obstacle à surmonter pour les développeurs depuis les premiers jours de l'histoire du jeu vidéo. Et je pense qu'Ikaruga est le premier jeu à le faire. Car jusqu'alors, les musiques n'étaient séparées que par des scènes différentes à chaque étape. À cet égard, je crois qu'Ikaruga a changé la donne dans l'histoire du jeu vidéo. Oui, c'est vraiment un gros fan. D'ailleurs, je refais une petite parenthèse. Vous savez, je parle beaucoup de Taro Yoko dans cette émission, dès que j'en ai l'occasion, hein. Dès que j'ai du biscuit à croquer sur la question. Et c'est pas la première fois d'ailleurs que je vous dis que Ikaruga, c'est vraiment son jeu, quoi. D'ailleurs, si vous avez fait Nier Automata, la première séquence, la toute première séquence du jeu, c'est Ikaruga. Et donc, Taro Yoko dit que pour lui, bon, il a essayé de faire ça, mais que pour lui, ce n'est pas aussi bien que dans Ikaruga. C'est là que je trouve son côté vraiment humble qui ressort à nouveau. Il dit par exemple, vous voyez, nous avons forcé ces gimmicks lors des transformations des boss. Et pendant que la musique monte pour s'adapter au moment, à l'action, c'est juste un événement scénarisé au final, car les développeurs ne peuvent pas deviner quand le joueur battra le boss. Dans une autre scène de Nier Automata, les mouvements d'un boss encore correspondent au rythme de la musique, mais c'était juste pour que les mouvements suivent la longueur, hein, suivent le rythme de la musique, et non quelque chose que les joueurs pouvaient contrôler de manière interactive. Si c'était fait correctement, la musique augmenterait en intensité, sa rage montrait lorsque vous faites des dégâts massifs ou quelque chose dans ce genre, pour que vous sentez le jeu via la musique. C'est incroyablement difficile à contrôler par le créateur et c'est toujours troublant, mais c'est parce que c'est si bien fait dans Ikaruga que ce jeu est si éclatant. Alors à titre personnel, moi je peux vous dire que je trouve que c'est aussi bien fait dans Nier Automata, mais je trouve l'humilité du gars qui est vraiment extraordinaire, puisque depuis Nier Automata, on va pas se le cacher, il a été hyper starisé, hein, y a beaucoup de gens qui lui voient un culte maintenant. Moi, il fait vraiment partie de mes créateurs de jeux vidéo préférés, et comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, j'ai découvert son œuvre après avoir pris vraiment un combo de claques monumental avec Nier Automata. Et je trouve la personne super humble et surtout qui ne se cache pas de ses influences. C'est pas la première fois qu'il dit « j'ai piqué ça à tel jeu, j'ai piqué ça à tel jeu, j'ai piqué ça à tel jeu ». Il n'arrête pas. Si vous avez vu, si vous avez fait Nier, le premier Nier, hein, que moi j'ai fait après avoir découvert Automata, c'est bourré d'influences partout. Ça prend sur Resident Evil ici, ça prend sur Zelda là, enfin, et c'est des hommages qui ne sont pas cachés, c'est carrément des mondes entiers qui sont architecturés autour d'un hommage. C'est beaucoup plus mature, ça se fond beaucoup plus dans le game design avec Nier Automata, c'est beaucoup plus homogène, et surtout il y a pas mal d'idées originales aussi par-dessus, mais vraiment, je trouve l'humilité du gars exceptionnel. En tout cas, voilà ce que j'avais envie de vous dire ce matin, et alors je sais pas vous, mais moi Ikaruga, j'ai vraiment envie de le refaire. Le temps, l'argent me manque, mais c'est clair qu'un de ces quatre sur Switch, il refera à nouveau partie de ma ludothèque, car c'est l'un des chefs-d'œuvre vraiment de l'histoire du jeu vidéo.